Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, c'est la philanthropie de l'ouvrier charpentier. Pour nous joindre, le 01 43 71 89 40. Lucien Nachin s'était fait lui-même et il s'était très bien fait. Cet homme de qualité ne supportait pas dans son être rien qui fût vil ni qui fût bas. Je l'ai vu, soldat, chef, fonctionnaire, érudit, philosophe, parcourir les années, prendre part à deux guerres, plonger dans les événements, se mêler ardemment aux hommes, sans qu'il se soit jamais sali. Il a vécu, ce fut pour les autres, non pour lui. Et moi, qu'il a aidé maintes fois jusqu'en ces dernières journées, je rends témoignage à la mémoire de Lucien Nachin, mon compagnon, mon ami. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer un livre qui s'appelle « Les bus de la honte » avec Jean-Marie Dubois et Malka Markovic. Ils sont là, c'est plus facile pour en parler. Et puis alors là, moi je suis assez choqué qu'il se soit attaqué à un personnage aussi important de la République, un militaire, un bon, un vrai, un pur, un dur, avec des relations avec De Gaulle quand même, et toute une, bon, un bourgeois, ça c'est très clair. Alors, déjà,
le meilleur ami du général De Gaulle.
Voilà, là, c'est ça, c'est quand même,
c'est pas n'importe qui.
Donc je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a pris? En quoi vous êtes arrivé dans cette histoire et qu'est-ce qui vous a pris d'attaquer ce monsieur qui est quand même quelqu'un d'important? Sauf qu'il y a des erreurs dans les dates de mort, mais bon, oui. Ça c'est autre chose.
Oui. Il n'y avait aucune raison a priori. Il n'y avait aucune raison a priori. C'est le hasard de la vie, c'est le hasard des décès. Voilà, et je perds un cousin en 2014, un cousin germain. Et nous avions donc le même grand-père, ce fameux Lucien Nachin. Lui, il l'avait connu, parce qu'il avait 25 ans de plus que moi. Il l'avait connu jusqu'à son adolescence. Et moi, j'en ai entendu parler comme, ce que tu viens de dire...
Un héros.
L'intellectuel avec un grand I, la droiture absolue, le mérite républicain, le père de famille parfait, enfin, la perfection. C'est-à-dire que, de toute façon... En clair, je n'arriverai jamais à l'égaler d'une manière ou d'une autre. Toujours est-il que donc ce cousin meurt, enterrement au Père Lachaise, grand enterrement, parce que ce cousin est haut fonctionnaire, il y a toute la crème
de la République,
les collègues de la Cour des comptes, etc. Donc des séries et des séries de discours lénifiants, mais toujours un enterrement, hein, c'est tout l'avantage de mourir.
On ne parle pas du mort.
Voilà. Dans ce cas présent, on ne parle pas du mort.
Et on ne parle pas beaucoup du mort, mais très peu. Et puis, tout d'un coup, sans arrêt, il y a Lucien Nachin qui revient. Et même fils de mon cousin, papa qui aimait son grand-père. Et nous, qui sommes, donc je suis avec Malka, on est debout au fond, on se gèle, hein, pour être très clair, il fait très froid, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous parle de lui? Et ça devient insupportable.
Ça commence à résonner, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le cousin en question, on veut lui rendre hommage et il prend une stature au moment de l'enterrement parce qu'il est le petit-fils de ce grand Lucien Nachin. Et là, on ne comprend plus rien, effectivement.
C'est ça. Et est-ce que c'est une chose de consciente ou inconsciente? On ne se rend pas compte, mais on se rend compte. En tout cas, moi, je me rends compte qu'il se passe quelque chose et tout d'un coup, je me mets à écouter plus que d'habitude, parce que justement dans ce genre de moment, et à un moment on décroche complètement, on n'écoute plus rien, et je me rends compte que vraiment on est en train d'enterrer
d'une manière républicaine,
ce grand-père.
Et puis il y a aussi déjà quelque chose qui nous fait un peu tiquer, c'est que on nous parle le cousin de Jean-Marie qui est né avant la guerre, et le fils évoque un petit peu son enfance en disant oui, pendant la guerre ça a été les meilleurs moments de sa vie, et puis quand il était en Algérie après les accords d'Évian, et c'était superbe le désert algérien avec les films de David Croquette et tout ça. Alors, c'est vrai qu'on se dit, tout d'un coup, il y a quand même pas mal de... On dirait un peu qu'on est dans un enterrement Walt Disney républicain. Tout est merveilleux, tout est magnifique.
Surtout en citant ces moments-là.
Voilà.
Autant, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont merveilleux, ça va au contraire. Mais là, les citations de les moments merveilleux d'un militaire, ça fait toujours un peu peur de toute façon.
Ça fait très peur.
Surtout quand on parle quand même de la Deuxième Guerre mondiale, de la première avec les massacres qu'il y a eu quand même. Et puis de la guerre d'Algérie, c'est les meilleurs moments.
Voilà. Et alors est évoquée donc la guerre de 14-18 qu'a faite mon grand-père, mais il l'a faite un mois. Il est tout de suite blessé, mais comme il a eu le temps de
d'écrire son journal
minute par minute. Donc il est blessé, il est emprisonné, et donc mon cousin, juste 2 ans avant sa mort, fait publier ses carnets, ce qu'il appelle les carnets de route. Donc, c'est les souvenirs de la guerre de 14 de mon grand-père. Donc, on est dans le grand raout du centenaire de la guerre de 14. Donc, ça y est, on va pouvoir mettre Lucien Nachin en avant pour ses hauts faits d'armes. Alors, ses hauts faits d'armes, c'est qu'il est blessé. Il a peut-être la chance d'être blessé. Donc, peut-être qu'il serait mort. Mais enfin, il est blessé. Donc, il est fait prisonnier. Comme il est officier, il est emprisonné de manière tout à fait soft.
Oui, parce qu'il a fait une école militaire avant. Ce n'est pas quelqu'un qui était en train de retourner son champ ou qui était instituteur.
Alors, en même temps, c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'il vient d'un milieu vraiment, vraiment populaire, dans le sens où ça a été vraiment dur. Il n'a pas pu passer son bac. Il a fait donc l'école de Saint-Mexan. Comme il était visiblement très brillant, ça, on va lui reconnaître ça. Et il sort premier partout, il est remarqué, et donc il est officier très jeune, et il se retrouve à la guerre de 14 en tant qu'officier, et il se retrouve donc comme prisonnier en tant qu'officier. Donc voilà, on a des photos, on a retrouvé dans les albums familiales. C'est assez sympathique. C'est des jolies pièces avec
des meubles,
tout le monde est très bien habillé, tout le monde sourit. Enfin,
C'était un gradé.
Donc voilà, il passe 4 ans. Il est un petit peu emprisonné, mais enfin.
Il fait des conférences à ses copains officiers, tout va. Enfin voilà. C'est pas la fin du monde.
Il y a ce côté aussi, il a pas fait Saint-Cyr, c'est pas un fils de bourgeois qui a fait Saint-Cyr, qui se retrouve officier. Donc il y a, déjà, et ça j'ai senti cette revanche. Il y a un côté, une revanche qu'il va falloir prendre un jour ou l'autre.
L'armée va lui permettre de devenir un bourgeois.
Voilà, c'est un tremplin, il accède, mais ce plafond de verre existe vraiment, vraiment, c'est que ça bloque, c'est-à-dire que en clair, on lui a jamais proposé de grimper et de devenir général, choses comme ça. Voilà. Et on ne pardonne pas dans ces milieux ses origines sociales. Alors peut-être moi aujourd'hui, j'en sais rien, j'avoue, je ne suis pas très branché.
Militaire.
C'est pas trop mon truc. Mais enfin, en tout cas, voilà, entre ceux qui ont fait Saint-Cyr et ceux qui n'ont pas fait Saint-Cyr, ou qui ont fait l'école navale, voilà, il y a des clans.
Donc c'est vrai qu'on se retrouve dans cet enterrement, on perd la chaise, on est un peu abasourdi, on ne comprend pas grand-chose. Et puis ça dure toute la journée, c'est-à-dire après on dépose les cendres du cousin, et puis il y a des grandes envolées lyriques sur sa culture, la laïcité, enfin voilà, c'est la République dans toute sa beauté, et on est tellement... tellement sidéré. Moi surtout, tout d'un coup, je rentre dans cette maison, donc la maison d'enfance de la mère de Jean-Marie.
La maison familiale,
et là, j'ai des haut-le-cœur. J'ai envie de vomir. Je sors dans le jardin. Je suis complètement pétrifiée. Et Et on rentre le soir à la maison, après cette journée d'épreuves pas possible. Je ne sais pas pourquoi je suis sidérée, Jean-Marie est sidéré. Et on commence à picoler. Hein. On n'a pas pu rigoler en général. Après un enterrement, on rigole.
Oui,
on rigole pas du tout. C'est, tout ça est très sérieux. On prend un verre de vodka et là, on se dit mais qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre ? Est-ce qu'il était à Londres ? Parce qu'après tout, c'est le meilleur ami du général de Gaulle. Et il aurait dû aller à Londres.
Oui, et puis comme on le présente quand même comme un grand monsieur,
oui.
Automatiquement, il a fait des grandes choses.
Est-ce qu'il a été est-ce qu'il était avec Jean Moulin ? Est-ce qu'il était dans la résistance ?
Chose qui aurait pu faire plaisir.
Et voilà. Et là, le doute nous assaille.
Nous sommes au XXIe siècle, donc on se rue sur nos ordinateurs. Mais je dois dire, c'est vraiment Malka qui appuie sur le bon bouton dans mon petit cerveau. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il faisait exactement, ton grand-père, pendant la guerre ? Et donc là, ça y est, le cerveau se remet en marche et je me rappelle que donc ma mère me disait qu'il adorait son père d'une manière excessive, d'ailleurs on en reparlera, excessive, voilà. Militaire, mais enfin il a terminé comme directeur de la RATP. Et ça, c'est des choses que j'ai entendues dès l'âge de 10-12 ans, mais j'avais totalement intégré, j'ai absolument pas posé une question de plus là-dessus. Mmh.
Et pourtant, d'autant plus que RATP, ça veut dire 49.
C'est ça.
Passé l'époque qui pouvait être délicate.
Et ce qui est dingue, sans prétention, on est tous les deux historiens. Moi, je fais des études d'histoire. Je prétends être curieux, je prétends fouiller. J'ai un rat de bibliothèque. Après, pourquoi je suis devenu un rat d'Internet. Enfin, voilà. Je ne suis jamais autorisé à regarder l'histoire de la RATP. Et c'est Malka qui me dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant, s'il était à la RATP, et donc on plonge, donc Internet permet vraiment beaucoup de choses.
Et là c'est Jean-Marie, tout d'un coup, il voit les autobus. Il voit cette seule image d'autobus,
seule photo,
parce que ça, on la connaît, cette image d'autobus devant le Belgique.
Un peu de hauteur.
Oui, on ne sait pas d'où.
Et tout d'un coup, Jean-Marie se dit, mais tant c'est vrai, c'est quoi mais qu'est-ce qu'il faisait pendant la rafle du Veldiv ? Et donc on
peut-être qu'il s'était cassé la jambe.
Et voilà. Et donc nous on commence à
c'est l'espoir fou ça.
C'est l'espoir fou de Malka.
Et le premier texte qu'on voit sur Internet est une note signée de Lucien Nachin qui a été citée dans un mémoire de maîtrise sur cette société qui s'appelait effectivement pas la RATP mais la STCRP.
Société des transports en commun de la région parisienne.
Voilà.
J'arrive jamais à m'en souvenir.
Ah oui, c'est impossible.
Non, mais c'est pas très grave.
Par un historien qui s'appelle Pascal Fitzner et qui cite, et on trouve cette lettre sur Internet, signée Lucien Nachin, qui date de juillet 41. Or, les premières rafles avec les autobus ont eu lieu en mai 41. C'était la fameuse rafle du billet vert. Et ensuite, il y a eu une grande rafle, Place de la République, en août 41, où la Place de la République a été bordée d'autobus. Alors, je dis, bon, il était là en mai 41, donc il a vu quand même, j'espère qu'il s'est cassé une jambe.
Ouais. Et, il y a quand même juillet 42 qui est pas loin.
Juillet 42 est pas loin, puis il y a quand même août 41 qui est aussi pas loin du tout. Et ben non.
Et non. Non, alors. Donc, en fait, Internet a ses limites, là. On ne trouve pas plus de choses. Et hop, je prends mon téléphone et j'appelle la RATP. Je regarde, je vois qu'il y a les archives de la RATP. Je les appelle. Un petit peu paranoïaque, je me dis...
Ils vont me jeter.
Ils vont me jeter, donc je me fais passer pour le petit-fils gaga de son grand-père qui fait des recherches généalogiques.
Tu fais le cousin, quoi.
Je fais le cousin. on sait faire de la famille. Ça marche très bien. L'archiviste me dit, je vais faire des recherches. Et effectivement, il nous rappelle une quinzaine de jours après, peut-être moins d'ailleurs, assez rapidement. Il dit, oui, on a trouvé un dossier, Lucien Nachin, venez le consulter.
Oui, c'est pas étonnant.
Hein, c'est un dossier, ils ont tous les dossiers personnels. Même si on avait vu sur Internet quand même qu'il y avait beaucoup d'archives qui avaient disparu, mais enfin, pour l'instant, on ne le savait pas. Et on débarque comme ça, donc, quai de la Rapée, dans les archives de RATP sont quai de la Rapée, en face de la gare de Lyon. Un truc très moderne, on arrive dans ce hall où justement... Il y a une jolie collection de vieux, vieux autobus à plateforme.
Ils sont tous alignés. Ils sont très rutilants.
L'espèce
légèrement surélevé qu'on
voilà,
voit bien.
Voilà, parfois un peu penché. L'espèce de, voilà, du Paris rêvé, du Paris...
Oui, puis ça fait un historique à travers les différents
les
bus.
Différents,
c'est,
voilà.
C'est assez donc, impressionnant.
C'est assez impressionnant. On est, voilà. Et on rentre dans cette salle d'archives super moderne, tout ça. Et on trouve un dossier au nom de Lucien Nachin. Et sous son tableau de carrière, on comprend qu'il est rentré donc en 1923, très tôt hein, dans cette société. Et on voit très vite à la suite qu'il est mis à la retraite le 1er juin 1946. Bon, là, il n'y a pas besoin de faire un dessin. On dit, voilà, il est resté.
Il était là.
Il était là.
Et puis, ce qui est très intéressant,
là, c'était
c'est
la première impression, c'est très clair.
Sur la couverture, il y a donc il y a toute ça,
l'évolution de carrière.
Ça va très vite, hein, ça va très vite d'ailleurs.
Et puis, on voit de 41 à 46 un grand trait qui barre en diagonale la page. Là, il n'y a plus rien. On ne connaît plus rien comme
détail. Un blanc.
Et on trouve même des documents qui ont été découpés au ciseau.
Le bas est découpé au ciseau. Il manque comme des bordereaux.
Attendez, arrêtez, vous êtes dans une enquête d'espion là. Ou je sais
c'est
pas quoi.
Complètement. Alors, non, surtout que c'est des dossiers très propres, très. Et tout d'un coup.
Oui, ben ça, c'est tout à fait la fonction publique. Il y a
voilà,
toujours des dossiers.
C'est super. Mais là, vraiment, comme si un enfant un peu dyslexique avait découpé vite fait
pendant qu'on ne voyait pas. Voilà. Mais il y a une feuille au milieu de tout ça qui a échappé à visiblement une épuration des documents, qui est une liste, donc une feuille qui doit être au milieu d'un dossier qui
oui,
a
parce
disparu.
Qu'il porte un numéro 3.
Donc c'est la page numéro 3, il n'y a pas de page 2, pas de page 4. Et avec des listes de gens qui sont amenés à être présentés devant la commission régionale d'épuration. Et des supérieurs hiérarchiques de Lucien Nachin, des gens au même niveau que Lucien Nachin, et des gens qui sont en dessous de Lucien Nachin.
Voilà.
Et
il n'y a pas le sien.
Il y a son nom.
Il y a son nom. Parce qu'en fait, c'est on ne l'a pas dit, mais enfin, donc on découvre que son poste, c'est en fait d'être chef de service de la direction du personnel, mais en fait, c'est lui qui dirigeait la direction du personnel. Il y a beaucoup de papiers où il signe directeur du personnel. Donc, c'est le directeur des ressources humaines d'aujourd'hui.
25 000 employés sous ses ordres
voilà,
avant la guerre.
Qui est totalement transversal dans la société. Hein. Il chapeaute tout. Et donc, on voit bien qu'il est... absolument central dans cette société. Et ça m'impressionne parce que je me dis quel va être son niveau de responsabilité. Ça va très vite dans ma tête là, je sens des choses
oui,
terribles.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas un exécutant. C'est peut-être un exécutant politique.
Financier,
et
s'il est moyen.
Mais voilà. C'est pas un exécutant sur la décision quotidienne.
Et
c'est
sur...
un exécutant sur la décision quotidienne.
Voilà. Et par rapport à la blague sur le fait qu'il soit cassé une jambe ou pas, avec quand même la possibilité, et heureusement beaucoup de gens l'ont fait, de partir.
Il aurait pu partir.
De partir, de dire bon, ça je fais pas. Ça, je fais pas. Alors ça, c'est des jugements,
mais
c'est des choses comme
c'est,
ça.
C'est des choses avec la vue d'aujourd'hui. Parce
c'est
que
la
c'est
vue d'aujourd'hui,
très,
c'est très délicat.
Voire impossible de savoir ce que chaque individu aurait fait à cette époque.
Comment ressent.
Déjà, on a du mal à savoir ce qu'on fait maintenant.
Et on
non,
a du mal à le comprendre.
Il y a quand même quelque chose qui est assez impressionnant dans cette histoire de la STCRP et dans l'histoire de Lucien Nachin, c'est qu'on découvre des documents qui ont été corroborés par d'autres historiens qui ont fait des recherches sur l'épuration dans les transports parisiens, sur tout ça. C'est que c'est une société qui a été à l'avant-garde de toutes les lois de Vichy. C'est-à-dire qu'elle a appliqué des lois avant même qu'elles soient promulguées. Et on trouve des textes écrits par Lucien Nachin qui ont été promulgués, appliqués auprès de la direction du personnel et qui sont du copier-coller de textes de DA ont été promulgués 3 jours après. Donc il était au courant.
Oui, c'est vrai, il avait toujours ses. ses relations, son circuit de relations.
Il avait toujours son circuit de relations. Et on voit aussi dans les dossiers d'épuration que cette société, c'est pour ça que c'est devenu la RATP, qu'elle a été nationalisée après la guerre, que cette société a pris des initiatives, et c'est dit noir sur blanc, a pris des initiatives au-delà des ordres qui lui étaient donnés. C'est-à-dire, c'est pas seulement on collabore, on applique les ordres de Vichy, on va au-devant. Et on s'aperçoit également que au sein de l'entreprise, il mène une politique en tant que directeur du personnel absolument terrifiante, qu'il y a des rapports tous les jours qui sont transmis à la
mais
préfecture.
Mais ça, je pense qu'on va justement en reparler un petit peu, mais parce qu'on va voir un peu, en effet, le rôle qu'il a eu, et puis on va faire un tour sur cette société des transports en commun de la région parisienne, sur ce que c'était et ce qu'elle a fait de toute façon. Oui. Mais c'est vrai que là, on voit que lui, c'est pas quelqu'un de quelconque dedans. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui fait de la mécanique, c'est pas quelqu'un qui... Il a un rôle décisionnaire sur l'organisation, et comme tu as dit, ça a l'air d'être une personne qui était assez brillante au niveau organisationnel, sur le rationnisme. Donc, il est quelque chose dedans.
Il est quelque chose, il a, c'est un autodidacte, mais voilà, un autodidacte...
Quand on dit autodidacte, on n'a pas besoin de dire mais.
Tu as raison.
Il n'y a aucun problème là-dessus.
Je me reprends. Autodidacte, mais de haut vol. C'est-à-dire qu'il a vraiment... il s'est plongé dans tout ce qui est possible de lire, et il s'est passionné pour tous les grands stratèges militaires.
Il y a de la stratégie dedans.
Machiavel, Sun Tzu, tout ça
est très pensé.
Comme ce que je disais tout à l'heure, son statut social ne lui a pas permis de grimper là où il voulait aller. Je crois vraiment que ce poste, parce qu'il a un côté médiocre en même temps, ce poste de directeur du personnel lui a permis de mettre en œuvre tout ce qu'il avait adoré dans ses traités de, j'allais dire, de manipulation des hommes, mais c'est ça, de comment on arrive à organiser, comment on arrive à convaincre des gens de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et ça, il l'applique avec une...
Et il est là, à cet endroit-là, il l'applique là, mais il aurait pu être ailleurs, il aurait appliqué la même
chose.
Très
bien.
Puisque, visiblement, c'était vraiment la stratégie, quoi.
Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un élément qu'on n'a pas. C'est pourquoi est-ce qu'il est rentré dans cette société ? Ça, on n'a pas trouvé. Il est rentré dans cette société de transport, sans doute par des amitiés. Je pense pas qu'ils connaissent Empain.
Oui, parce qu'il est sorti de l'armée.
Oui, il est sorti. Il a été à la direction de l'infanterie de 21 à 23, et il a quitté. Il l'a quitté.
Il faut dire qu'il avait une amitié avec quelqu'un qui avait été aussi jeté de l'armée et qui était quelqu'un, lui, qui est plutôt intéressant et amusant, qui était un colonel israélite, le colonel Meyer, qui avait été jeté au moment de l'affaire Dreyfus et pendant la guerre de 14, qui avait dit l'armée française est nulle, l'armée française... ne sait pas du tout. Et avait envoyé cette lettre à son protégé, qui était Lucien Achin, était beaucoup plus âgé que lui, il l'avait pris un peu sous sa protection. Et à la suite de la lettre que Lucien Achin a reçue, le colonel Meyer a été aussi destitué de l'armée.
De nouveau.
Donc, est-ce que c'est parce que Lucien Achin l'aurait transmis à l'armée ? Moi, c'était une question que je me suis posée. Je me suis dit peut-être que c'est lui qui a... Puisqu'on voit qu'après, il n'arrête pas de dénoncer. Il est un peu bizarre. Mais ou bien est-ce que, justement, étant ami du colonel Meyer, il sait qu'il ne va pas pouvoir monter dans la hiérarchie de l'armée. Et grâce au colonel Meyer, il rentre dans d'autres cercles. C'est-à-dire que le colonel Meyer et son gendre et Paul Grunbaum-Ballin, qui a rédigé la loi 1905 au Conseil d'État, qui est un grand républicain, etc., ami de Léon Blum, qui organise des salons politiques et littéraires tous les dimanches matins, où Lucien Achin peut aller, et qui est une espèce de fabrique de pensée de cette république de gauche humaniste, etc., après la Première Guerre mondiale. Et Lucien Achain est introduit dans ces cercles. Donc, est-ce que lui est très content, et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il rencontre, qu'il va jouer un rôle qu'on retrouve dans toutes les biographies de De Gaulle, c'est-à-dire que De Gaulle qu'il a connu en 19 et qui n'a pas accès à ces milieux. De Gaulle est maurassien, De Gaulle aimerait bien connaître Grunebaum-Balin, aimerait bien connaître le colonel Meyer, parce que c'est un militaire rebelle, parce que tout
enfin,
ça...
C'est quand même, clairement, excuse-moi, c'est comme la crème de... des intellectuels juifs de l'époque, entre les années 20 et 30, c'est vraiment l'endroit où il y avait une espèce de bouillonnement et donc De Gaulle, qui a aussi oublié d'être bête, se dit il faut que j'aille traîner par là. Surtout qu'il est absolument inconnu. Il a une ambition déjà.
Et donc il dit à Achain, j'aimerais bien connaître le colonel Meyer, est-ce que tu peux m'emmener Et dans toutes les biographies, on dit c'est Lucien Achain qui a introduit De Gaulle. Et le colonel Meyer, pour De Gaulle, dans toutes les biographies de De Gaulle, on retrouve, a été son espèce de mentor, justement, du militaire rebelle, du militaire stratège. C'est très intéressant.
L'importance de l'armée de métier.
C'est très important par rapport à ce que la posture que va prendre De Gaulle au moment de juin 40, qui est un peu la posture qu'a pris Meyer au moment de la guerre de
14. S'il avait vécu, parce qu'il est mort en 38, je pense que Meyer
aurait pris cette stature, et c'est la stature que Meyer a pris en 14, en disant arrêtez, vous faites n'importe quoi.
Ce qui veut dire que là, on sent qu'il y a un réseau d'influence, un réseau qui deviendra un réseau de protection, puisque, je veux dire, après quand il y aura le début de l'épuration, ça va être tous les petits qui vont se faire massacrer comme d'habitude, puisque les grands sont... Mais c'est après que, justement, les papons feront partie de ce réseau et de tout un réseau d'amitié qui sont des réseaux de pouvoir. Et ce qui s'est passé, c'est pas très grave, en fin de compte, puisque l'intérêt, c'est qu'il y avait des gens des deux côtés. Comme ça, de toute façon, on pouvait toujours s'équilibrer. Voilà, c'est ça. Et puis, ça veut dire qu'à l'après-guerre, ces réseaux ont fonctionné très, très longtemps. Hein, de toute façon, c'est pas... Donc, lui faisait partie de ces réseaux, en fin de compte. Ce qui explique peut-être qu'il n'a pas eu trop de problèmes à la sortie et qu'on a recréé une histoire. Il faisait partie de ce réseau de pouvoir et puis de
Et qu'il
de
a su, je crois qu'il a su, il a su se placer assez haut et en même temps pas tout à fait devant les projecteurs, parce qu'il a, je crois qu'il a compris, enfin là je vais un peu plus loin, mais je crois qu'il a compris très très tôt que les Allemands se cassaient la figure. Je pense dès mi-43, ils s'est dit tout ça va très très mal finir.
Bien sûr, mais certains ont tourné Kazakh, certains en 43 justement se sont dit, ou même à 44, même le dernier mois, même le dernier jour,
le lendemain,
la résistance. Lui, on n'a pas trouvé le moindre indice, le moindre papier d'une protection de résistants, de quoi que ce soit. Je dirais, Papon, il a réussi à justement avoir des juifs qui témoignent à son procès pour dire... Non, lui, rien.
Oui, mais c'était quand même une fonction... Il était discret.
Voilà.
Très discret, puisque là, c'est vrai qu'on voit son parcours. C'est quelqu'un de très discret. Il fait partie des réseaux, il n'y a pas de problème. Oui. Mais on ne voit pas son nom apparaître beaucoup. D'ailleurs, cette partie de la guerre, on n'en parle pas du tout.
Du tout. Mais là où il est encore, je me répète, là où il est très malin, c'est Malka, tu dis, il devient pas résistant, mais il est, je dirais, encore plus intelligent.
Il dit, je sors la première biographie
du général de Gaulle, et il ose...
Et à la bonne date.
Au dépôt légal du 25 août 44. Tout ça avec grande discrétion, comme tu dis. C'est-à-dire, Lucien Achain, personne ne connaît. Mais par contre, un livre qui sort sur Charles de Gaulle, qui est en train de descendre les Champs-Élysées, soi-disant sa première biographie, ce n'est pas exactement vrai. Il y en a une qui a été diffusée aux États-Unis, mais qui est introuvable. Donc, il est quand même très fort. Et ce qui permet, nous, parce qu'on était éberlués, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qu'après la libération de Paris, alors qu'on sait très bien quel a été son poste, il reste dans cette société et il est nommé à un poste de, notamment d'accueil.
Il y a un humour un peu dur quand même. Hein.
Ah là, ça devient, on a envie de vomir.
Social,
l'accueil
alors,
social.
En même temps, il réussit pas tout parce que cette biographie de Gaulle, le journal Frontier. Alors ça a été publié par un éditeur qui a été un grand collaborationniste.
Oui, c'est quand même des bêtises.
Que
un peu,
même le gouvernement provisoire, Édition, on a vu renseignements généraux, a interdit ce livre à sa sortie parce que c'était quand même un peu énorme. Et après, il a été republié et c'est devenu un best-seller genre un an après. Mais au moment de la sortie du livre, c'était tellement gros. Le journal Franc-Tireur dit écrit, c'est un alibi. Enfin, voilà. Donc,
mais je crois que ça a dû, marcher dans les milieux. Dans le réseau, et notamment dans la société, la STCRP, ça a dû fonctionner.
Bien sûr.
Franc-Tireur, eux, ils étaient...
Ils avaient leur nom.
Et alors, ce qui est assez terrifiant aussi, c'est que, autant tout ce qui concerne la dénonciation des Juifs, la dénonciation des gaullistes, la dénonciation des résistants n'est pas accessible dans les archives de la RATP, ni à la préfecture de police. C'est-à-dire, on a les listes, en revanche, de tous ceux qui étaient communistes. Et donc, on sent bien qu'ils préparaient, que ça n'a pas été épuré, parce qu'après la guerre, pour De Gaulle, sa bataille était effectivement
les communistes.
Donc on a toute la liste des communistes qui ont été dénoncés par Nachin. Il a continué à conserver ces listes. On les trouve à la préfecture de police.
Avait encore une valeur pendant toute la période de la guerre froide. Quoi.
Exactement.
Je vous propose qu'on se fasse un petit point de musique.
Volontiers.
Donc, toujours autour du livre qui s'appelle Les bus de la honte, Jean-Marie Dubois et Malcolm Markovitch pour nous joindre le 01 43 71 89 40.